Suite aux accidents nucléaires à répétition ces derniers jours au Japon, le fantôme de Tchernobyl refait son apparition. Mais le flou et la désinformation qui régnaient à l'époque ont mis longtemps à se dissiper. Aujourd'hui encore, certaines notions ne sont pas claires pour tous. Yves Lenoir, président de l'association Les Enfants de Tchernobyl, revient pour nous sur un vocabulaire parfois complexe. Une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
Yves Lenoir, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est exactement qu'une irradiation ?
Une irradiation interne ou externe est provoquée par des rayonnements. Ces rayonnements sont de plusieurs natures. Vous avez soit des rayons purement électromagnétiques, comme la lumière, mais de très haute énergie, qui peuvent traverser la matière en cédant une partie de leur énergie durant le parcours. Ou bien, ça peut être des électrons produits par une désintégration atomique, qui vont parcourir un certain chemin aussi dans la matière, plus ou moins long suivant la matière en question. Si c'est l'air, c'est quelques centimètres. Si c'est dans le corps, c'est quelques millimètres. Vous avez aussi les rayons qu'on appelle alpha, qui sont des noyaux d'hélium, très haute énergie, mais alors du fait de leur diamètre important, ils sont arrêtés par le moindre obstacle. Donc dans l'organisme, pratiquement leur parcours est très court, mais ils cèdent toute leur énergie sur ce parcours. Alors pour comprendre pourquoi ça peut créer des dommages alors qu'apparemment on ne sent rien, on ne voit rien, on ne sent rien, donc il y a très peu d'énergie en jeu, c'est que une désintégration, prenons par exemple comme le césium, qui est l'un des contaminants des populations qui vivent dans les régions qui ont subi les retombées de Tchernobyl. Une désintégration de césium produit autant d'énergie qui va être entièrement distribuée sur place, au voisinage même de la désintégration, qui est équivalente à la combustion de, disons, 20 000 molécules d'eau. Ce qui veut dire que l'énergie qui va être entièrement absorbée par l'organisme au voisinage de la désintégration de cet atome de césium va, grosso modo, détruire 20 000 molécules d'eau et va former des composés oxydants, très réactifs. Et ces composés endommagent, une certaine proportion de ces composés vont endommager des parties importantes, vitales éventuellement, de la cellule. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez une forte concentration de césium, par exemple au niveau du cœur, qui est un organe qui travaille beaucoup, eh bien, un enfant qui a absorbé de la nourriture contaminée, ça va aller en partie se concentrer dans le cœur, va avoir son cœur lésé. Et on voit des gosses de 12 ans, même moins, qui ont des cardiopathies, qui ont des arrêts cardiaques. Vous savez, cette fameuse mort subite du nourrisson, ben, eux, ce qu'on appelle une décompensation, ils la subissent à n'importe quel âge.
Alors pour bien comprendre, Hiroshima, c'était des rayons gamma, oui. Tchernobyl, c'était très différent.
Hiroshima, c'est un flash, en quelques millièmes de seconde, vous recevez la dose, et après, sauf si vous absorbez des retombées de la bombe, ça concerne une petite partie de la population, les autres personnes qui ont été victimes du bombardement n'ont subi que ce rayonnement gamma. Et c'est sur la base des conséquences observées de cette irradiation externe massive, brutale, la dose a été délivrée en une fraction de seconde, que toute la statistique concernant l'action des radiations, irradiations internes comme externes, sur l'organisme, ont été établies. Toutes les prévisions, le modèle est basé sur Hiroshima. Or, ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est tout à fait différent. Vous avez eu explosion et libération dans l'environnement d'un cocktail, en gros, tout ce qu'il y avait dans le cœur du réacteur, les iodes, le césium, le strontium, et même du plutonium, et même des petits morceaux de réacteur par l'effet de cheminée qui était entraîné à grande distance. Moi, j'ai ramassé ce qu'on appelle une particule chaude à 70 km de Tchernobyl en prenant simplement de la mousse sur une place dans un village. Je l'ai fait analyser par la CRIRAD, c'était en 88. Ils ont été stupéfaits, il y avait un bout de réacteur là-dedans. Et les gens qui vivent dans les régions qu'on n'a pas évacuées, qu'on aurait dû évacuer, qu'on n'a pas évacuées, que ce soit en Russie, en Ukraine, au Bélarus, trouvent dans leur nourriture des produits qui poussent sur place ou bien du gibier qui vont tuer quand ils vont à la chasse, une proportion du césium qui est déposé dans, et du strontium et des autres radioéléments qui est déposé dans le sol. Ces gens-là donc absorbent régulièrement dans leur nourriture les champignons, les baies, les produits du jardin potager, voire même des produits agricoles parce que on distribue de la nourriture agricole contaminée. Je le sais, puisque j'en ai mangé sur place en 90, donc 4 ans après, on se contaminait copieusement en mangeant dans le sud de la Russie, dans un restaurant, c'était la cantine officielle du chef-lieu du district. Un organisme qui aurait dû surveiller la nourriture qu'il distribuait aux gens qui venaient manger là. C'est-à-dire, en gros, les fonctionnaires, le personnel du district. Eh bien non, j'ai pris 4000 becquerels en un repas. Donc, c'était pas anodin, et c'était la norme commune. Donc, ça veut dire que ces gens-là, jour après jour, manger de la nourriture contaminée, avec les effets qu'on a observés sur les populations. Et c'est ça le problème de Tchernobyl, c'est une irradiation interne continue de produits spécifiques qui se comportent dans l'organisme d'une façon hétérogène. Vous avez des organes qui ne sont absolument pas concernés et d'autres où ça va se concentrer et où l'action va causer des dommages qui ne seront pas des cancers, qui seront des maladies somatiques. Des enfants ont des maladies de vieux et les cancers viendront, sauf pour la thyroïde ou les leucémies qu'on observe, contrairement à ce qu'on dit. Tout ce qui n'est pas cancer est considéré comme étranger, non relié à l'absorption de radioéléments. Alors que ce sont des mots qui sont apparus spécifiquement après Tchernobyl, qui n'existaient pas avant.
Tchernobyl, c'était parce qu'il y avait une expérimentation de trop.
Ce qu'il faut savoir sur Tchernobyl, c'est aussi qu'on réécrit l'histoire d'une façon tendancieuse. J'ai trouvé en 82, dans un rapport de l'Agence pour l'énergie atomique de Vienne, dans un bulletin de février 82, un article concernant la sûreté des réacteurs en URSS. Donc un article qui a été reconnu tout à fait valable par l'agence, puisqu'elle l'a diffusé dans son bulletin de février. Cet article expliquait que les réacteurs de la technologie de Tchernobyl, donc les RBMK, étaient parmi les plus sûrs du monde. Et d'ailleurs, à raison, puisque c'était les premiers réacteurs qui avaient servi à produire de l'électricité dans le monde, depuis 1954. Et en 82, ça faisait donc 28 ans qu'ils fonctionnaient sans pépins majeurs. Alors que les réacteurs PWR avaient eu plusieurs accidents, dont le fameux accident de Three Mile Island, qui avait failli conduire au syndrome chinois. C'est-à-dire à la fusion complète du cœur. Il y avait 60% du cœur qui avait fondu. Donc, à juste titre, les Russes pouvaient être fiers d'une technologie qui ne pouvait pas produire ce type d'accident. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pas une cuve. Ce sont des tubes séparés les uns des autres, avec une vanne à l'entrée, une vanne à la sortie. S'il y en a un qui fond, ben, on ferme les vannes et puis on répare. Comme les réacteurs graphite gaz français. C'est le même type de structure. Et ce type de réacteur n'a pas besoin d'enceinte. Et même, il n'en faut pas. Parce que si on veut intervenir sur un réacteur qui a un petit pépin, s'il y a une enceinte, on a toute l'enceinte qui est contaminée et travailler devient extrêmement difficile et puis coûteux en irradiation du personnel. Ce qui s'est produit à Tchernobyl, c'était un accident qui était lié à la non-prise en compte de quelque chose qu'on connaissait, qui était qu'il ne fallait pas redémarrer ce réacteur après un arrêt un peu prolongé à basse puissance. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait perdre le contrôle. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce type d'accident de perte de contrôle de réactivité, eh bien, vous pouvez le trouver dans n'importe quel type de réacteur. C'est lié à la physique même des réactions atomiques dans un réacteur. Donc dire que Tchernobyl, c'est à cause d'une mauvaise conduite des opérations, c'est vrai. Dire que ça ne peut pas se produire chez nous, c'est faux.
Nous reviendrons prochainement sur les actions menées par l'association Les Enfants de Tchernobyl. Restez bien à l'écoute de Radio Éthique, la radio du changement durable.